Vous écoutez RTL.
RTL Midi.
Invité de RTL Midi, Bruno Gazeau, le président de la Fédération nationale des associations d'usagers de transport. Bonjour à vous.
Bonjour.
4 mois après la pagaille, pendant 3 jours à Paris-Montparnasse cet été, les voyageurs ont donc subi hier un bug informatique. Le trafic a repris ce matin, il y a encore quelques retards. Pour autant, l'incident a laissé pendant cette journée des milliers de voyageurs livrés à eux-mêmes sans information. Ce matin sur RTL, le PDG de SNCF Réseau a affirmé que l'information n'avait pas été à la hauteur. Est-ce que c'est le moins qu'on puisse dire? Est-ce que vous êtes plus sévère?
Oui. Il y a deux choses dans cette affaire. Il y a les problèmes techniques qui sont liés à la fois, dans certains cas, à la vétusté des voies et du réseau. Dans d'autres cas, l'abondance des travaux qui gênent les circulations. Mais il y a un côté qui demeure, c'est l'information voyageur, qui est indépendante des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et ça, il faut vraiment que la SNCF l'améliore, parce que c'est devenu insupportable pour les usagers de ne pas savoir. L'incertain est quand même l'ennemi de l'usager. Ce qu'il aime, c'est la fiabilité et la sécurité. Mais ce qu'il aime pas, c'est l'incertain. Et l'incertain ne cesse de croître.
Et quand ils ont reçu, tous ces gens qui devaient partir hier, un petit message sur leur téléphone disant « Nous vous invitons, dans la mesure du possible, à renoncer à votre voyage », on comprend que la formule agace.
Oui, alors sur l'information voyageur, il y a beaucoup de choses à améliorer. Parce que dans l'information voyageur, il faut la produire l'information et vérifier qu'elle est juste. Et ensuite, il faut la diffuser. Ouais. Et dans la SNCF, il n'y a pas unité de canaux pour... produire l'information, il n'y a pas d'unité non plus pour la diffuser. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même information forcément par les contrôleurs, sur les écrans et sur les sites. Mmh. Et en général, vous avez peu d'informations quand on est en situation perturbée, non prévisible. Dans les autres cas, la SNCF arrive à peu près à maîtriser les choses, mais en situation imprévisible, il faut qu'elle passe à des formules plus modernes, de scénarios qu'elle prépare par anticipation. Mais il faut qu'elle arrive à maîtriser l'information non prévisible. Alors, je reconnais que c'est difficile, mais enfin, c'est difficile dans beaucoup de métiers.
Ça veut dire qu'il faut investir beaucoup. Il nous parle, la SNCF, de 150 millions d'euros sur 4-5 ans. Là, hein.
Pourquoi alors, faire et comment ?
Monsieur Pépi a lancé un plan de 150 millions pour ajouter une couche logicielle, justement, pour unifier la production, unifier la diffusion de l'information. Mmh. Mais il faut savoir que les coûts des dysfonctionnements de la SNCF représentent pour les usagers 1,5 milliard. Ça coûte 1,5 milliard aux usagers d'avoir des retards, d'avoir des trains annulés ou d'avoir des pannes de ce type. Mmh. Et on investit sur le réseau à peu près 3 milliards. Si vous voulez, 1,5 milliard rapporté à 3 milliards, ça mérite d'investir plus massivement pour limiter le coût qui est supporté par les usagers.
Est-ce qu'on peut se rassurer que le gouvernement soit en colère, comme la ministre des Transports qui a tapé un peu du poing sur la table en disant « ça ne peut pas se reproduire ». Ça nous rassure, ça, en tant qu'usager ou pas ?
C'est difficile, parce que le problème vient de loin. Il vient de l'accumulation par plusieurs gouvernements successifs d'un défaut d'investissement qu'il faut essayer de rattraper maintenant. Et donc aujourd'hui, la SNCF est devant des difficultés très, très lourdes qu'elle a à gérer, et c'est pas facile. Et il ne faut pas forcément la critiquer surtout, mais enfin, elle a des dents pour progrès à faire.
Vous avez l'impression qu'elle n'a pas retenu les leçons du dernier incident du 31 juillet ?
Je ne dirais pas ça. Ils avaient décidé une procédure, un plan B, au cas où le problème se reposerait. Ils se reposent. Ils ont détourné les trains vers Austerlitz très rapidement.
Oui. Au moins, il y a eu une solution qui a été mise en place
et qui avait été préparée. Donc voilà, ce type de réflexion doit être multiplié, si j'ose dire.
Sauf que les voyageurs en question, eux, ne se sont pas toujours retrouvés au bon endroit au bon moment.
C'est toujours pareil. Le versant information voyageur est défaillant. Il est défaillant pour des tas de raisons, parce qu'il n'y a pas une filière formation information voyageur. Ce n'est pas une filière métier comme l'est la filière matérielle, par exemple. Dans une entreprise où il y a beaucoup d'ingénieurs, ce qui est le soft ne fait pas l'objet de process industriels comme il peut le faire pour les matières comme le matériel ou les voies. Donc il faut vraiment professionnaliser cette métier et en faire une filière à part qui ne soit pas mélangée avec le commercial.
Bruno Gazeau, on va écouter des usagers en colère. Évidemment, c'est Olivier, par exemple, le premier à nous rejoindre depuis Poitiers. Bonjour Olivier.
Bonjour Christelle, bonjour Stéphane. Et puis, excusez-moi, j'ai pas le nom de votre invité.
Monsieur Gazeau. Olivier, vous étiez bloqué hier en gare de Poitiers, c'est ça ? Vous alliez à Toulouse ?
Oui, tout à fait. Oui, je suis resté bloqué comme beaucoup d'usagers hier.
Oui, racontez-nous.
Donc, moi, j'ai reçu un petit message, c'est vrai. On a été informés, mais on a été bloqué. Moi, je prends la ligne tous les jours entre Poitiers et Paris. C'est la troisième fois en 1 an et demi. Je rappelle, le 31 juillet, effectivement, tout le monde en a parlé. Mmh. Mais le 26 mai 2016, on a eu exactement la même chose. Et là, on n'a eu aucune information. Et moi, ce que j'ai peur aujourd'hui, enfin, comme tous les usagers, c'est que la SNCF fait de la communication, là j'ai bien entendu ce que vous investissez sur les améliorations possibles, mais pendant 4 ans de la construction de la LGV, vous avez dit plein de choses, que ça allait s'améliorer, en fait on a eu des problèmes pendant 4 ans, les usagers, et là sur les pannes ponctuelles, effectivement, on n'a pas l'impression, enfin moi j'ai bien peur que ce soit un coup de com' et puis qu'il n'y ait pas d'amélioration et que la prochaine panne, tout le monde subisse exactement le même problème.
Mmh. Qu'est-ce que vous en dites, Bruno Gazon?
Ça fait un petit moment qu'on voit la situation se détériorer, au point qu'il y a 3 semaines, on a écrit au Premier ministre en l'alertant sur les difficultés que rencontraient les usagers, qui vont croissant, et que dans le cadre des assises de la mobilité et de l'audit qui a été confié à M. Spinetta récemment, il fallait désormais trouver des solutions, et des solutions durables, parce que les choses avaient beaucoup détériorées.
Bruno Gazon, vous allez rester là avec nous, bien sûr. Olivier aussi depuis Poitiers, parce que vous allez intervenir juste après 13h, comme tous les auditeurs qui veulent s'exprimer sur ce manque de communication à la SNCF dans ces situations délicates, mais aussi au quotidien, on peut en parler. C'est 3210, vous avez la page Facebook à disposition, RTL, les auditeurs ont la parole, vous êtes tous les bienvenus en ce lundi.
RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière,
Stéphane Carpentier.
Alors vous prenez les commandes comme tous les midis de l'émission, on va prolonger le débat entamé il y a quelques instants sur le bug informatique de la SNCF hier et la gare Montparnasse complètement paralysée avec toutes les galères pour les usagers évidemment. Surtout on s'arrête sur le manque d'informations du côté de la SNCF, ce qui a tendance à vous agacer et même plus que ça. Olivier est toujours avec nous. Il a été bloqué hier en gare de Poitiers. Petite question, Olivier, suite à votre témoignage tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez prêt à payer plus cher votre billet pour être mieux informé ?
Ouais, je crois que ce n'est pas la question. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas une question d'efficacité. Je crois que ce n'est pas parce qu'on paiera plus cher le billet qu'on sera mieux informé. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a ça. Et puis, je crois que une deuxième chose que je voulais soulever aussi, c'est que les agents ne sont pas forcément super formés. On voit bien qu'ils sont démunis. On sent bien qu'ils sont mal à l'aise parce qu'ils ont peu d'informations. Donc, je pense que la SNCF a un gros travail à faire sur la formation de ses agents.
C'est vrai qu'on a recueilli beaucoup de témoignages qui allaient en ce sens, Bruno Gazon. Les gilets rouges, ils sont pleins de bonne volonté, mais pas forcément bien formés pour assurer cette info.
Pas forcément bien formés et pas forcément bien informés.
C'est ça.
Non, je crois qu'en matière de formation, l'information voyageur, c'est un métier. Ça ne s'improvise pas. Ça se transforme énormément, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de moyens de communiquer. En plus, il faut aller vers les gens. Donc, ça, il y a un problème de relation aux clients, aux autres. Mmh. Et aujourd'hui, je dirais même que sur les TER, on voit des expériences tout à fait intéressantes où des réseaux se créent entre les conducteurs de train, les chefs d'escale, enfin les chefs de gare, et les associations d'usagers. C'est-à-dire qu'ils créent un réseau horizontal là où habituellement l'information est descendante ou montante. Quand elle marche, mais il se crée un réseau horizontal. Donc, l'information, ça se transforme beaucoup. Donc, il faut que la SNCF s'adapte à ça aussi.
Peut-être une
faut même qu'elle
encourage
ce genre
voilà.
de choses.
Il en parlait tout à l'heure, Eric Vanier, vous connaissez, qui est notre spécialiste transport ici à RTL. Il disait que parmi les axes de réflexion du gouvernement, il y en avait un qui consistait à impliquer les voyageurs eux-mêmes dans la diffusion de l'information avec une application où chacun pourrait signaler les trains qui roulent ou qui vont partir et ceux qui sont bloqués.
Les usagers ne l'ont pas attendu. Hein. Ça se fait sur un certain nombre de lignes, enfin j'en ai des exemples, mais je pense qu'il appartient à la SNCF de l'encourager, voire même de le généraliser. Mmh. Mais elle a peur de ça un peu, je trouve. Elle est très rétive vis-à-vis d'associer les usagers à l'information.
Frédéric nous rejoint, auditeur de Paris. Bonjour Frédéric, soyez le bienvenu.
Oui, bonjour.
Vous deviez aller en Bretagne, j'ai bien dit devier. Hein.
Oui, mais bon, j'ai annulé parce que j'ai pris connaissance du problème. Bon, mais c'est vrai que au-delà du bug et de tout ce que ça suppose comme conséquence, je pense que effectivement il y a un problème d'information qui se pose, et ce problème d'information, je pense qu'il va de pair avec une forme de déshumanisation du service public qui était la SNCF, et cette déshumanisation du service, elle va aussi de pair avec la mise en concurrence du secteur et d'une certaine manière de la libéralisation du service. Et je pense qu'on amplifie beaucoup dans les médias ce genre de problème parce que ça existe. Je pense que le risque zéro n'existe pas. Moi, je suis moi-même usager. Mmh. J'habite près de la gare du Nord, tout près de la gare du Nord. Je vois à quel point cette gare aujourd'hui est devenue complètement déshumanisée. Quand vous pensez que la gare du Nord est la plus grande gare d'Europe et qu'il n'y a même plus dans cette gare, même plus un buffet de la gare, ça vous laisse un petit peu, on peut imaginer, c'est devenu un immense checkpoint, la gare du Nord, quelque chose qui est complètement déshumanisé. Et effectivement, quand il y a ce genre de problème, eh bien, on a l'impression qu'on est un peu perdu, qu'il n'y a plus d'informations, que le personnel n'est pas au courant de ce qui se passe véritablement. Et je pense que là, ça pose un autre problème. Ça pose un problème aussi, je dirais, de choix économique. Et je pense que vous avez aussi une responsabilité, les médias, parce que je pense que vous amplifiez énormément ce genre de problème, parce que je pense qu'en France, on a des gens qui travaillent à la SNCF qui sont très compétents, on a des fonctionnaires qui font bien leur travail, et la SNCF, jusqu'à maintenant, c'était un peu la fierté de notre pays, ça fonctionne, faut se dire que le train en France fonctionne beaucoup mieux que dans beaucoup de pays d'Europe, et ça
vous avez raison de le rappeler.
Voilà, je le rappelle, absolument. Moi, je pense que ce genre de problèmes sont amplifiés aussi, comme ça sera d'autant plus facile après pour faire passer par exemple la réforme des retraites, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'aussi, moi, je voulais mettre l'accent aujourd'hui sur votre responsabilité au niveau des médias, des radios, des télévisions, parce que je pense qu'aujourd'hui, vous participez beaucoup, vous faites un peu les porte-voix de, je dirais, un petit peu du discrédit qui est jeté aujourd'hui sur la fonction publique et sur les fonctionnaires, alors que moi, je connais énormément de gens dans le service public qui font très bien leur travail avec l'amour du métier. Et voilà.
On ne jette pas la pierre à tous ces gens qui travaillent à la SNCF, hein, c'est Frédéric qui parle là. Au contraire, on essaie de comprendre de quelle manière il faut améliorer le système.
Il suffit d'écouter vos émissions le matin, Yves Calvi. Le soir, on refait le monde. Quand je vois le casting des émissions le soir, je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de Français qui ne sont pas représentés dans cette émission. Et c'est une émission qui est idéologiquement est très, très orientée. Et ça, je pense que ça pose un problème d'éthique, un problème par rapport à l'information. Et de temps en temps, les journalistes, au lieu de critiquer les fonctionnaires et la fonction publique, vous feriez bien aussi de vous remettre en question et de réfléchir un petit peu sur ce qui se passe. Je ne sais pas, relisez Paul Nizan, Les Chiens de Garde. Voilà.
On va réfléchir, on va relire, Frédéric. Voilà. En tous les cas, c'est votre avis et vous avez le droit de l'exprimer. C'est le but de cette émission. C'est un vrai débat. Merci d'être là depuis Paris. Olivier va intervenir encore et toujours. Marc veut prendre la parole aussi. Philippe est déjà connecté au standard. C'est 3210. Le débat se prolonge. 3210 sur votre téléphone.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi. Stéphane Carpentier.
Christelle Robière.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
On revient sur le bug d'hier qui a bloqué la gare Montparnasse. Nous sommes toujours avec Bruno Gazot, le président de la FNOT, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers de Transport. Et nous accueillons Philippe qui est en Côte d'Or. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Soyez le bienvenu.
Bonjour.
Alors,
à tous.
Vous êtes un ancien conducteur de TGV.
Oui, je suis un ancien conducteur de TGV, je suis en retraite depuis 14 ans, mais je travaille pour le privé. Je fais des formations pour les conducteurs du privé, c'est-à-dire pour le fret et voilà.
Oui.
Donc je voulais intervenir en vous disant que vraiment la vétusté du réseau est énorme. Mm-hmm. Je dis bien énorme. Et lorsqu'ils font des travaux comme ils font à la gare de Montparnasse, ça se passe la nuit. Mm-hmm. Et donc il faut, si vous voulez, de 22h à 6h du matin, il faut qu'en 8h, le travail soit fait. Mmh. Et c'est le gros problème à l'heure actuelle. C'est qu'il faut rendre les voies rapidement. Donc, ils n'ont pas le temps de finir vraiment le travail. On le fait rapidement. On remet le trafic en marche. Et après, voilà ce qui arrive derrière.
Mmh. Et on le fait rapidement. Là, on l'a fait un dimanche, en l'occurrence, parce qu'il nous expliquait ce matin que ça aurait été pire si on avait dû le faire en semaine à cause de tous les trains de banlieue qui arrivent et qui partent de la gare Montparnasse.
Oui, c'est vrai qu'il y a un gros trafic dans cette gare. Mais enfin, je pense que tout vient de là. Et vraiment, le réseau est dans un état épouvantable. Moi, je circule sur des voies où on limite les vitesses à 40 à l'heure, à 60 à l'heure, parce qu'on ne peut plus passer à la vitesse normale. Les aiguillages sont pourris, tout est dans un état épouvantable. Si vous voulez, le tout TGV qui a eu lieu pendant des années, on le paye maintenant. Et ça, c'est clair. Si vous voulez, c'est le gros problème de la SNCF. Alors, quand j'entends le directeur, quand je l'ai vu dire, il ment, parce que quand il dit « on va arranger le truc dans les 2 heures », c'est pas vrai. Il le sait très bien qu'il ne pourra pas le faire. Vous voyez, ça c'est de la communication et c'est le gros problème à l'heure actuelle. Alors quand on dit les gens ne sont pas renseignés parce qu'il y a ci, ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise? Il n'y aura pas de train? Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent les informations tout doucement pour ne pas meuter les gens, pour pas que tout le monde s'énerve, s'excite. Voilà. Mais au bout du compte, on sait très bien que les trains ne vont pas rouler. Vous voyez. Alors, on détourne à Austerlitz. Austerlitz, c'est une gare qui n'est pas équipée pour recevoir les TGV, déjà. Il faut quand même le savoir. Hein, elle n'est pas aux normes. Il y a la gare de Lyon. Pourquoi on ne fait pas aller par la grande ceinture nord, les TGV sur Marne-la-Vallée, les choses comme ça. Et après, ça peut repartir sur le Sud-Est en passant par Massy-Palaiseau et tout ça. Je connais bien les lignes. Vous voyez, il y a des moyens. Encore faut-il qu'ils mettent le système en marche. Il faut que les conducteurs soient autorisés à la ligne pour aller à Austerlitz. S'il n'est pas autorisé à la ligne, il ne peut pas y aller. On va être obligé de lui donner une fiche de détournement. Vous voyez, il y a toute une organisation qu'il faut revoir.
Ça paraît très administratif encore tout ça, Philippe, là.
Ah bah c'est très lourd, c'est très lourd. La SNCF, ça a été fait à l'époque sur le système de l'armée. On appelle ça des divisions, des subdivisions, des choses comme ça. Donc c'est un gros truc. En plus, là maintenant, ils ont scindé en plusieurs entités. La voie, c'est une entité, les contrôleurs, c'en est une autre. Vous voyez, il y a tout un système, ça ne fonctionne pas. Moi, je suis rentré en 72 à la SNCF. Donc j'ai une grande expérience de la SNCF.
Philippe,
et je vois qu'on n'avance pas.
Voilà, oui. Votre constat du moment. Restez là, Philippe, on va accueillir Marc qui nous passe un coup de fil du Val-de-Marne. Bonjour Marc.
Bonjour Stéphane et bonjour Christelle.
Bonjour.
Je voudrais dire aux usagers, dont je comprends bien la colère, qu'il ne faut pas se tromper de responsable. Le responsable de ce qui se passe actuellement, c'est une volonté pour organiser la concurrence, d'organiser une certaine gabegie. La SNCF a eu un monopole depuis 1945 qui a été très, très bénéfique pour le transport de fret, le transport de personnes, l'interconnexion, les gares un peu partout. On nous a obligés à ouvrir la porte à la concurrence. Mais on ne peut pas limiter la concurrence, on ne peut pas ouvrir la concurrence sur une voie ferrée comme on le fait sur une autoroute. Le conducteur de locomotive, il s'en va parce qu'il en a reçu le signal. Le chemin qu'il prend, c'est l'aiguilleur qu'il a défini. Les arrêts qu'il fait, c'est ce qu'il a écrit sur sa feuille de route. Et tout ça, ça oblige à une homogénéité de tout le système, depuis l'entretien de la voie, jusqu'au personnel sédentaire, le personnel roulant, technico-commercial. Et si on casse ce monopole, on ouvre la porte à la gabegie.
Bruno Gazot, qu'est-ce que vous en dites ?
Je dirais qu'à la date d'aujourd'hui, on n'a plus trop le choix, puisque l'Europe a pris des directives qui imposent l'ouverture à la concurrence. Elle est déjà ouverte d'ailleurs pour les grandes lignes, pour le fret. Elle ne l'est pas évidemment encore ni pour les intercités, ni pour les TER. Il faut bien voir que quand on dit ouvrir à la concurrence, c'est une concurrence assez limitée. C'est celle de la concurrence dite régulée, qu'on a héritée de la LOTI d'il y a 30 ans et qui existe pour les transports urbains dans toutes les villes de France. Donc c'est une concurrence où on met en appel d'offres des lots. C'est d'ailleurs ce que font d'ailleurs maintenant les Anglais ou les Allemands, depuis longtemps, sans que ça pose énormément de problèmes. C'est pas les voies qui sont mises en concurrence, c'est l'exploitation sur les voies. Et ça oblige finalement à se remettre en cause. Et aujourd'hui, tous les audits qui ont été faits montrent que la SNCF est en gros 20% plus cher que les concurrents étrangers. Et donc on pourrait faire circuler finalement 20% de trains en plus ou offrir un meilleur service aux voyageurs ou des moindres prix. Donc ça, voilà. Mais quand on met en concurrence, il y a toujours un cahier des charges qui est élaboré par la région maintenant, puisque c'est sa compétence. C'est donc elle qui définit le service public qui sera exécuté par une entreprise publique ou privée, peu importe son capital. Elles obéissent au même cahier des charges. Et d'ailleurs, nous, en tant que FNOT, nous demandons à être consultés sur ces cahiers des charges, parce que c'est ces cahiers des charges qui définissent le service public. Et donc, c'est quoi l'information voyageur? C'est quoi la qualité de service? C'est quoi le plan de transport? On demande à être consultés sur ça, et on demande à être consultés sur la façon dont ce service est exécuté.
On prolonge le débat dans un instant. Dans les auditeurs, on a la parole évidemment sur la SNCF et la situation du moment. Vous êtes les bienvenus sur notre page Facebook. Intervenez, commentez la page Facebook RTL Les Auditeurs ont la parole. Puis on va écouter Isabelle qui est déjà en ligne au 3210. Vous appelez 3210.
Christelle Robière, Stéphane Carpentier.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Robière,
Stéphane Carpentier.
Paralysie à la gare Montparnasse hier. Le trafic est redevenu normal, mais ça fait quand même deux incidents majeurs en l'espace de 3 mois. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour Christelle, bonjour Stéphane. Bonjour.
Soyez la bienvenue. Vous vous étiez retrouvée en galère, Gare Montparnasse, le 31 oui. juillet dernier.
Ah oui, puis une grosse galère le 31 juillet.
Oui, parce que là, tout avait été bloqué pendant 3 jours.
Oui, alors moi, j'ai pas été bloquée 3 jours parce que j'ai pris le taureau par les cornes et puis j'avais la chance de pouvoir, enfin, la chance, oui et non, parce que ça m'a coûté de l'argent. Mais bon, moi, pour faire court, en fait, voilà, j'avais réussi à réserver un petit voyage surprise pour mon fils, pour ses 30 ans. Moi, je suis quelqu'un qui a des tout petits moyens, donc j'avais fait des petites économies. J'avais trouvé un billet d'avion partant de Bordeaux pour aller à Barcelone. J'avais pris une chambre là-bas, enfin, etc. Tout était parfait. Donc, je suis partie d'Orléans par mes propres moyens avec quelqu'un qui pouvait me déposer à Tours. J'avais prévu de prendre le TGV à Tours pour aller à Bordeaux. Mmh. Et avec mon fils, on se retrouve à Bordeaux, à l'aéroport, pour prendre un vol low cost. Et quelle a été ma surprise en arrivant à Tours? Eh bien, il n'y avait pas de train, puisque c'était la galère de Montparnasse. Mmh. Il était 10h30 le matin. Je n'étais pas au courant, parce que départ en vacances, la valise, enfin, la gaieté et tout ça, donc les infos... Voilà, hein, j'avais un petit peu zappé tout ça. Et puis, j'ai eu une misère à avoir des informations. Enfin, conclusion faite, le train que je devais prendre, je ne l'ai pas pris. Donc,
vous n'aviez pas été prévenu ou pas un SMS?
Ah non, pas du tout d'infos dans la gare, absolument pas de messages vocaux, personne sur les quais. Mais alors, quand je vous dis personne, c'est personne. Hein. Oui. Et on voyait même que les gens nous fuyaient, en fait. Hein. Voilà, et puis après, on m'a bien proposé un autre train dans l'après-midi, mais mon avion était à 16h à Bordeaux, donc l'avion bloqué. Ça voulait dire que si je ne prenais pas mon avion, je perdais aussi ma location en Espagne. Mmh. Donc, le billet d'avion, c'était 150€ aller-retour pour tous les deux, ça c'était chouette comme tarif. J'avais trouvé quelque chose d'assez agréable en tarif aussi, mais bon voilà, on partait d'une semaine, quoi. Et puis ces vacances, on les attendait tous les deux depuis 4 ans, donc
oui, bien sûr.
C'était trop bien, quoi. Mmh. Et puis bon, mon fils m'a dit, écoute maman, c'est pas grave, on va faire autrement. Donc lui, il était venu en voiture à Bordeaux, donc il a été récupérer sa voiture qu'il avait mise sur un parking. Donc le prix du parking qu'il avait payé, le parking a servi à rien. L'autoroute, le gasoil, le stationnement à Barcelone, parce que ça, c'est pas une mince affaire. Donc, conclusion faite, nos vacances nous ont coûté le triple de ce qu'elles nous auraient dû nous coûter à peu près. Mmh. Et puis, quand j'ai fait mes demandes à la SNCF, des jolis courriers, avec justificatif, preuve à l'appui, on m'a bien dit regarder les textes. Tous les dommages collatéraux sont jamais pris en charge. Voilà. Et ce matin, j'entends votre invité qui dit tous les dommages pris en charge, même les dommages collatéraux.
Oui, tous les frais d'hôtel, etc.
Alors là,
je suis
de taxi. Parce que je me suis dit, non, mais il y a deux poids, deux mesures là. Mm. Qu'on ait trouvé des nouvelles solutions, je ne suis pas contre. Hein. Si ça peut faire du bien aux gens qui se sont trouvés en galère hier, ok. Mais pourquoi nous, au mois de juillet, on ne nous a rien donné, quoi?
Oui, c'est une bonne question, Bruno Gazo. À votre connaissance, il n'y a pas eu d'indemnisation cet été?
Alors, je ne pourrais pas vous répondre dans le détail, mais
si.
Les choses évoluent, parce que souvent la SNCF contestait tout ce qui pouvait être remboursement.
Oui.
Bon, les choses ont un peu évolué. Oui. Maintenant, les conseils régionaux obtiennent des dédommagements quand il y a des problèmes sur les trains régionaux, enfin sur les TER ou sur les RER. C'est pas encore parfait, et c'est pas encore parfait dans toutes les régions, mais ça progresse petit à petit. Sur les retards de la SNCF, elle a pris un engagement il y a 3 mois à peu près, désormais, de rembourser, de dédommager les usagers en cas de retard, quels que soient les motifs.
Oui.
Alors qu'avant, quand c'était des motifs dits de force majeure, elle ne remboursait rien, elle ne dédommageait personne. Donc là, pour des raisons proprement commercial, sur les TGV et les intercités, elle a décidé de rembourser, dédommager, quels que soient les motifs du retard. Même s'il y a de la neige ou du verglas. Je crois qu'ils s'étaient engagés à dédommager au moment du mois de juillet et du mois d'août. Ce qu'ils n'ont pas fait, c'était de dédommager les gens pour les dommages dits collatéraux. Pour les dommages collatéraux, la démarche que madame a prise, c'est qu'il faut s'adresser au service client, qui en général vous répond ce qui a été répondu. Et si vous n'êtes pas d'accord, il faut saisir le médiateur de la SNCF, qui lui juge en équité. C'est-à-dire, il ne juge pas en droit, mais en équité. Mm-hmm. Il ne regarde pas si la SNCF est conforme aux directives européennes ou aux droits du voyageur en France. Il juge en équité, c'est-à-dire, il apprécie le dommage que les personnes ont pu subir et il y aura un jugement. De ce point de vue. Mmh. Alors après, les usagers l'acceptent ou l'acceptent pas. Mais moi, je préconise
au moins,
recours au médiateur.
Il y a un recours, donc voilà,
qui est indépendant de la SNCF et qui porte un jugement objectif.
Voilà. Essayez de saisir le médiateur de la SNCF.
Merci Isabelle du coup de fil au 3210. Il y a pas mal de messages aussi, Laurent Tessier, concernant l'éventuelle privatisation de la SNCF et la galère du moment en tous les cas. Sur notre page Facebook, RTL Les Auditeurs ont la parole, et sur notre compte Twitter, hashtag RTL Midi.
Voilà, pour Bruno, deux solutions: privatiser ou changer la direction et les responsables des différents services. L'erreur à ne pas faire, c'est justement la privatisation, nous écrit Vincent sur Twitter. Ce serait la fin du réseau, une désertification totale de nos territoires. La galère, Claire l'a connue hier. Je partais de Biarritz à 9h49. Je suis arrivé à Paris à 19h30. Personne n'était capable de nous renseigner. Le week-end dernier, pour d'autres motifs, mon train a aussi eu du retard. Que c'est compliqué avec la SNCF. Le mot qui revient le plus sur les réseaux sociaux, c'est irrespect, notamment chez Céline. Je suis en attente d'un remboursement suite à une annulation en juillet. Malgré de nombreux appels et un numéro de réclamation, rien ne bouge. Voilà, c'est ça aussi la SNCF.
Voilà, vous prolongez le débat et vos messages évidemment sur notre compte Twitter, hashtag RTL Midi, et également sur notre page Facebook RTL Les Auditeurs ont la parole. Vos commentaires sont les bienvenus. Merci Bruno Gazo de nous avoir accompagnés.
Merci de m'avoir invité.
Et la Fédération Nationale des Associations d'Usagers de Transport.